C'est bon.
C'est bon? Bien. Est-ce qu'il y a des enfants dans la cour?
Yes, yep.
Non, parce que ce dont il va être question maintenant relève plus du train fantôme que du guignol. Et c'est assez épouvantable. Puisqu'il s'agit maintenant de l'aspect politique, législatif, réglementaire, donc publicité et loi sur l'environnement, publicité et règlement local de Paris. Donc autrement dit, vous allez apprendre des choses. Si certains d'entre vous avaient encore quelques illusions politiques, ils ne ressortiront pas d'ici pareil. Il reste toujours quelques illusions politiques quand on creuse bien. Nous allons maintenant aborder, donc passer derrière le décor du théâtre de marionnettes et vous apporter, donc Nicolas Hervé va vous apporter quelques informations concernant l'aspect législatif au niveau national, donc la loi sur la publicité qui a été refaite la nouvelle loi a été votée il y a un an, en juillet 2010. Et par ailleurs, pour ce qui concerne Paris, donc là ce n'est plus la loi, c'est le règlement local de publicité. Donc deux cauchemars en un, deux histoires d'horreur. C'est pour ça que je demandais s'il y avait des enfants, s'il y a des âmes sensibles. Il est encore temps de partir. Voilà. Donc Nicolas Hervé, président du collectif des déboulonneurs, je lui passe la parole.
Merci. Bon. Enfin, moi, je suis pas fondateur du collectif. Hein. J'apparais pas sur les papiers, moi. Le collectif des déboulonneurs, si vous regardez le manifeste, vous l'avez tous lu, on fait de la désobéissance civile pour demander un changement de la loi. Ça veut donc dire qu'il y a une loi qui réglemente l'affichage publicitaire et tout ce qui concerne la publicité dans l'espace public. C'est une loi qui date de 1979. Qui depuis est intégré dans le code de l'environnement et qui donc relève du ministère de l'environnement. C'est une loi qui en 79 s'est avérée, était écrite en gros par les afficheurs pour mettre un peu un cadre à leurs activités qui jusque-là ne devaient pas être extrêmement réglementées. Je ne sais pas exactement comment c'était avant 79, mais en tout cas ils ont très clairement participé à la rédaction de cette loi. Et puisqu'ils avaient quand même eu l'audace de mettre quelques restrictions, ils se sont bien vite dépêchés ensuite de ne surtout pas respecter cette loi. Donc la loi de 79 en cas de l'affichage, mais elle est bafouée en long, en large et en travers par tous les professionnels. Selon les estimations, il était question qu'un tiers ou la moitié des panneaux publicitaires en France sont dans l'illégalité. Le gros problème d'une loi est... attention à ce que je vais dire, ne me prêtez pas de mauvaises intentions, c'est qu'il faut une police pour la faire respecter. Il y a une police de l'environnement, il y a des gens qui sont chargés de faire respecter les lois sur l'environnement. Le problème, c'est que ces personnes-là, elles sont de moins en moins nombreuses. On est à une époque où on parle d'environnement de plus en plus, les politiques en mettent à toutes les sauces dans leur discours, sauf que concrètement, actuellement, ça se passe au niveau des préfectures, des directions départementales de l'environnement. Il y a des études qui montrent qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires qui sont chargés de faire appliquer la loi sur ces points-là. Partant de là, on a déjà peut-être tout dit. À savoir qu'on a beau faire les lois qu'on veut, on peut mettre tout ce qu'on veut dans une loi, tant qu'elle est bafouée et que personne ne lèvera le petit doigt pour faire en sorte que la loi soit respectée, on peut continuer à pisser dans un violon, ça aura toujours le même effet, les afficheurs feront ce qu'ils voudront. Ceci étant dit, il y a le Grenelle de l'environnement qui arrive. Je ne vais pas m'étendre sur ce qu'est le Grenelle de l'environnement, sur la grosse opération marketing, sur comment ça a été fait, comment les associations se sont embrigadées, fait manipuler, etc. Chacun a son opinion là-dessus. Il n'empêche que dans la première étape du Grenelle de l'environnement, toutes les questions du paysage étaient tout simplement oubliées. On a parlé d'énormément de thématiques sur l'environnement, mais on n'a pas parlé du paysage. Et la publicité fait partie du pan du code de l'environnement qui concerne le paysage. Donc, une session de rattrapage était organisée pour pouvoir discuter de ça. C'était censé être quelque chose sur le même modèle que le Grenelle de l'environnement, à savoir qu'on met tout le monde autour d'une table, les politiques, les professionnels, les associations, les élus locaux, tous ceux qui avaient quelque chose à dire sur l'affichage publicitaire. On met tout le monde dans la même salle, on s'écharpe gentiment pendant de nombreuses réunions, on pond un rapport complètement insipide à la fin qui ne reflète pas ce qui s'est dit pendant les réunions, et on se garde bien de prendre des décisions quant à ce qu'il faudrait faire effectivement pour que les choses s'améliorent, pour que d'une part la loi soit respectée, et puis que d'autre part on arrête l'envahissement publicitaire. Donc au moment du vote de la loi Grenelle de l'environnement, donc ça c'était l'an dernier, la loi dite Grenelle 2, entre la fin des réunions où quelques décisions avaient été prises et le moment où effectivement les textes ont commencé à être votés par les parlementaires, il y a déjà eu beaucoup de réécritures dans les coulisses. Et concrètement, les textes qui étaient sur le point d'être votés étaient complètement vidés de leur sens et avaient plusieurs défauts. Le principal et qui est relativement emblématique, c'est que puisque les associations demandent à ce que la loi soit respectée sur l'affichage, eh ben, nous sommes d'accord avec vous, nous allons faire en sorte qu'il y ait moins de panneaux illégaux. Ah, chouette! Nous allons donc légaliser tous les panneaux qui sont illégaux. À partir de maintenant, il y aura beaucoup moins de panneaux illégaux, puisque tout ce qui était illégal vient d'être légalisé de facto par cette loi Grenelle de l'environnement. Alors on leur demande, mais donc concrètement, la loi Grenelle va juste servir à ça? Ah mais non, rassurez-vous, maintenant il y aura moins de panneaux. Mais vous pouvez me montrer dans les textes de loi à quel endroit? Ah mais si, rassurez-vous, il y en aura moins. Et on en est là. On en est là avec un texte Grenelle de l'environnement qui légalise un certain nombre de pratiques, qui dit, bon, mais vous comprenez, il y a des emplois derrière, il y a des entreprises qui en vivent. Oui, d'accord, mais ils vivent quand même d'une activité illégale. Oui, d'accord, mais ils en vivent. Bon, d'accord, donc on va le légaliser. On est là en 2010, et pour ce qui concerne l'affichage publicitaire, je ne sais pas si peut-être vous rappelez les choses, il y a une loi qui est votée par le Parlement, et souvent, pour les détails techniques, ce n'est pas les parlementaires qui s'en occupent, c'est remis au ministère, et les ministères, et le gouvernement écrit des décrets. Et pour ce qui concerne l'affichage publicitaire, le gros des points importants, c'est la partie dite réglementaire, ce sont donc les décrets. C'est-à-dire que les parlementaires n'ont plus leur mot à dire, c'est uniquement le gouvernement qui écrit ces décrets. Ce processus-là va se terminer la semaine prochaine. Et là, on n'est même plus dans les petites reculades, on est carrément dans l'impensable. Je ne sais pas exactement la tête qu'aura le texte la semaine prochaine. Mais il y a une version du décret qui a été rendue publique en février, parce que à partir depuis quelques années, le gouvernement a obligation de rendre publics les décrets pour les soumettre à consultation. Donc tout un chacun était invité à donner son avis sur une version du décret avant qu'elle ne soit publiée. Je vous rassure tout de suite, la version qui a été rendue publique était extrêmement optimiste, bien que nous, on la jugeait globalement mauvaise, voire très mauvaise. On avait relevé quelques rares petits points qui étaient intéressants, qui permettraient peut-être à la marge de corriger 2-3 détails. Ces points-là ont été balayés et on arrive maintenant avec un texte qui est catastrophique. Je vais prendre quelques exemples. En 1979, on ne parlait pas des écrans numériques. On les a vus arriver dans le métro. Tout ce qui se passe dans le métro n'est pas couvert par cette loi. Je vous le dis tout de suite, c'est la loi pour la publicité à l'extérieur, comme la métro, c'est à l'intérieur, c'est pas cette loi qui s'applique. Et donc, il y a un vide juridique autour de ces écrans numériques et sur leur implantation dans l'espace public. Donc on commence à en voir fleurir dans certaines villes des écrans qui font 6-8 mètres carrés, des télévisions de 6-8 mètres carrés plantées au bord des routes. Donc on a alerté tout de suite là-dessus en disant, mais attendez, il y a plein de nouvelles technologies qui arrivent. Il faut absolument, avant que ça se déploie partout, c'est maintenant qu'il faut mettre un frein. Si vous ne voulez pas toucher à tous les panneaux 4x3 qu'il y a partout parce que vous dites que c'est catastrophique pour les emplois, etc., au moins limiter les nouveaux qui vont arriver. Il n'y a pas eu d'investissement, ce sera plus simple pour vous d'interdire ça. Et là, la réponse nous a laissé un peu sur le cul, si j'ose dire. Ah mais non, on n'a pas le droit de toucher à ça. Il faut forcément autoriser les grands panneaux numériques. Et pourquoi? Parce que, certes, vous ne touchez pas à des emplois, vous ne touchez pas à du chiffre d'affaires, mais vous allez toucher à du potentiel de chiffre d'affaires. Et ce discours-là, c'est le discours du gouvernement. Oui, d'accord, mais alors, si on ne peut pas limiter ce qui existe et si on ne peut pas brider ce qui va arriver, vous nous expliquez pourquoi on est dans une loi de protection de l'environnement? Ah, mais oui, mais c'est comme ça, c'est parce que cette protection de l'environnement, la publicité, ça dépend de ce domaine-là, donc c'est ici qu'on va faire le travail. Donc concrètement, cet été, les discussions se sont passées, cette fois même plus au ministère de l'Environnement, maintenant les discussions se font à Bercy. Donc c'est Bercy qui est en train de réécrire le code de l'environnement, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique, puisque Bercy est en ligne beaucoup plus directe avec JCDecaux que le ministère de l'Environnement. Et ça remonte même plus haut, parce que maintenant c'est Matignon et l'Élysée qui s'occupent de cette réforme. Ça nous avait été dit à demi-mot par les différents cabinets ministériels, que vous savez, ce sujet est sensible, les pressions viennent de haut, etc. Ça a été maintenant avéré, ça a été écrit dans la presse, il y a des personnes, des cabinets ministériels qui ont parlé à la presse. Et oui, maintenant c'est clair et net, c'est JCDecaux qui écrit le décret sur l'affichage publicitaire. Donc il faut s'attendre à rien de bon, c'est évident. Et il faut s'attendre à ce que pour les 10-20 prochaines années, les deux grands créneaux des afficheurs qu'ils nous serinent depuis plusieurs années, le grand format, très grand format, donc les très grandes bâches publicitaires, et le numérique, c'est ce qui va arriver maintenant dans l'espace public. Donc le fameux 4 par 3 tel que vous le connaissez, bah, petit à petit, probablement, il va rester sur quelques zones, mais on va de plus en plus avoir des écrans et des bâches gigantesques. C'est vanté comme étant l'avenir, le futur par les publicitaires, et c'est exactement ce qui est en train d'être écrit dans le décret, ce qui est compréhensible puisqu'ils l'écrivent eux-mêmes. Ça laisse bien peu d'espoir en tant que militant associatif quand on participe à tout ça sur le fonctionnement de la démocratie. Alors j'ai déjà dit un gros mot, j'ai dit démocratie. Je ne vais pas vous refaire un tableau de la manière dont fonctionnent les institutions dans nos pays, de savoir qui possède réellement le pouvoir, qui décide réellement, etc. On n'avait pas de grande illusion en participant à ces travaux-là, sauf que pour les vivre de l'intérieur et pour voir au fur et à mesure de l'avancement des réunions, les pressions qui s'exercent, ce qui se passe en coulisses, la manière dont les choses se font, c'est finalement relativement simple. Il y a une personne qui décide, qui en l'occurrence ici c'est Decaux qui a le pouvoir, qui passe deux, trois coups de fil, et tout au long de la chaîne, les ordres sont répercutés. Ça en va même parfois lorsque il y a un peu de sable qui grippe la machine à ce que les choses se fassent publiquement. C'est rare, mais ça s'est vu typiquement à l'Assemblée nationale, en séance, chose relativement inédite, on ne s'y attendait pas. Il y a des députés UMP qui ont porté des amendements proposés par les associations et qui les ont défendus contre l'avis du gouvernement, et qui ont réussi à faire passer ces textes. C'est-à-dire que des députés UMP ont réussi à convaincre leurs collègues parlementaires, contre l'avis du gouvernement, qu'il fallait voter des amendements proposés par les associations contre JCDecaux. Ils ont passé un amendement. Ils ont passé deux amendements. Au bout du deuxième amendement, il y a eu une suspension de séance. Il y a eu en séance une engueulade des députés pour leur dire d'arrêter de voter avec l'opposition et que maintenant il fallait qu'ils votent comme on leur dit de voter et qu'ils arrêtent de réfléchir. C'est relativement inespéré parce que comme c'est public, c'est enregistré, tout est noir sur blanc. Ça s'est terminé dans les coulisses avec des engueulades pas possibles qui sont rapportées après par le Canard enchaîné, qui a les bonnes sources, c'est toujours intéressant. Mais donc concrètement, lorsque les élus qui ont la responsabilité de faire ce travail-là, commencent un tout petit peu à réfléchir, et en plus des élus qui, a priori, ne sont pas politiquement étiquetés comme étant des gens qui vont rentrer dans l'art de la publicité, mais quand même. Quand on voit les textes tels qu'ils sont arrivés, c'est tellement flagrant, c'est tellement horrible ce qui est proposé par rapport à ce que ça va générer dans le paysage, que même cela, des fois, il y en a certains qui se lèvent et qui disent non, là, il y a quand même un problème, on va trop loin. C'est pas possible de fournir sur un plateau comme ça aux entreprises le paysage. Le décret, je vous le dis, il va sortir, donc ça va être une catastrophe. La question est, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à demander de nouveau un changement de la loi? Qu'est-ce que ça pose comme question sur les méthodes d'action, sur les moyens d'action, outre le fonctionnement de la démocratie? On parlait ce matin de la presse et les copains d'Acrimed nous disaient, de toute façon, nous on estime que tant qu'on n'aura pas réformé la presse, tant qu'on n'aura pas fait en sorte d'avoir vraiment une presse indépendante, on ne pourra pas refaire le monde, entre guillemets, changer un peu le système et faire en sorte que d'autres idées puissent émerger, que d'autres idées puissent survenir. Là, en l'occurrence, c'est flagrant. C'est tant qu'on n'aura pas changé ce système politique, tant qu'on n'aura pas fait en sorte que le pouvoir économique ait une telle influence sur les élus, je ne parle même pas des gouvernements, parce que là, c'est beaucoup plus simple, mais y compris sur les élus, pour le peu d'espoir qu'on puisse encore avoir dans ce que veut dire une démocratie représentative et le pouvoir réel des parlementaires, pour le coup, les espoirs sont sévèrement douchés. Au niveau local, il peut se passer la même chose. Cette fameuse réglementation qui existe au niveau national, les mairies peuvent l'adapter au niveau local pour décider d'autoriser plus ou moins de publicité sur la commune par rapport à ce qui est possible au niveau national. Paris, à ce niveau-là, est relativement exemplaire, à la fois parce que, certes, c'est la capitale et c'est la capitale de la France. Et JC Decaux est une entreprise française. Et JC Decaux est une entreprise française qui marche plutôt bien au niveau international et qui a donc énormément besoin de sa vitrine parisienne pour aller vendre ses panneaux publicitaires aux quatre coins du monde. Parce que cette vitrine, ça lui permet de montrer son savoir-faire, de dire « Regardez comment je suis capable de faire des beaux abribus, regardez comment je fais des beaux panneaux publicitaires, etc. etc. » C'est pas pour rien si à Paris, on a des jolis panneaux publicitaires en fer forgé avec le logo de la ville de Paris, etc. C'est parce que ça permet de mettre en avant cette entreprise, et elle a vendu ça à Paris, et les élus parisiens, comme les élus de nombreuses grandes villes en France, se laissent séduire par, on parlait ce matin, de cette pseudo-gratuité. Regardez, je vais vous payer vos abribus, en échange, vous me laissez mettre de la pub un peu partout dans la ville. Regardez, je vais vous payer des vélos en libre-service, en échange, vous me laissez mettre un petit peu de pub dans la ville. Regardez, je vais vous payer des rames de métro. Regardez, je vais vous payer des manuels scolaires. Regardez, je vais vous payer ceci, ceci, cela. Et donc, on est de plus en plus dans le grignotement de ce qui devrait relever du service public, de la mission d'intérêt public, qui est délégué aux publicitaires pour faire en sorte que ça ne grève pas le budget municipal. Et ça, quelles que soient les couleurs politiques, tous les élus locaux font tête baissée dans ce panneau. Si vous regardez la communication de la ville de Paris sur le Vélib, là encore, c'est exemplaire. Paris était géré par la droite avant. Il y avait beaucoup de publicité parce que le marché de publicité était passé avec Decaux traditionnellement, était renouvelé, etc. Lorsque la gauche arrive, elle dit « Oui, quand même, il y a quand même un peu trop de pub à Paris. On va faire un nouveau règlement local de publicité pour faire baisser un peu la pression publicitaire à Paris. » Les discussions s'engagent, ça discute. Et puis on arrive au moment où on commence à parler du Vélib. Miraculeusement, pendant 2 ans, il y a eu un blackout complet sur ce fameux règlement local de publicité. Il était interdit d'en parler, c'est fini, les travaux étaient enterrés. Ça a été le temps de négocier le contrat des Vélib contre des panneaux publicitaires. Ce contrat est obtenu, les Vélib sont installés, je ne sais plus quelle était, ça devait être en 2007, je crois, 2008. Et juste après, la municipalité de Paris annonce « Les Vélib, c'est gratuit, ça ne coûtera rien en impôts aux Parisiens, vous pouvez applaudir la gestion saine de vos élus qui vous fournissent des services et en plus, ça ne vous coûte rien. » Et juste derrière, pour dire qu'ils ne sont pas vendus à la publicité, ils disent « Maintenant, nous allons faire adopter le règlement local de publicité. Tout de suite, maintenant, c'est une urgence. » Alors qu'il avait été enterré pendant 2 ans. Et miraculeusement, le texte du règlement local de publicité ressort avec, comme par hasard, quasiment mot pour mot, les termes du contrat entre Decaux et Vélib qui sont remis noir sur blanc dans ce règlement local pour figer dans le marbre ces nouveaux emplacements publicitaires. Autant on a pu être agréablement surpris du fait que quelques parlementaires à un moment donné se disent « Tiens, ça va pas », autant malheureusement, globalement, très majoritairement, les élus se laissent beaucoup plus facilement séduire par cette manne publicitaire, par cette rentrée d'argent, et sont prêts à brader de très nombreux services publics et à revenir sur de très nombreuses choses au nom d'un équilibre budgétaire, au nom d'une non-hausse d'impôts, etc., etc. Donc ce débat-là, il n'est pas neutre, parce que c'est globalement le même qu'on a eu pour la presse ce matin. Jusqu'où est-on prêt à payer pour un service? Quel est l'intérêt d'un service? Et est-on prêt à payer le juste prix un service? La seule différence avec la presse, la télévision, tout ce que vous voulez, C'est ce que nous on explique, c'est que dans la rue, vous n'avez pas le choix. Dans la rue, la publicité, vous ne pouvez pas y échapper. Vous pouvez acheter les médias que vous voulez, vous pouvez regarder la télé que vous voulez, vous pouvez consommer ce que vous voulez, mais dans la rue, dans les transports en public, vous n'avez pas le choix. Et donc cet espace public-là, c'est bien ça qui est vendu aux afficheurs, c'est des parties de l'espace public qui sont privatisées, qui sont colonisées, pour faire en sorte de diffuser ces messages-là. Enfin, je terminerai sur une dernière chose. On demande que l'affichage publicitaire soit restreint et que la taille des affiches soit de 50 sur 70 cm. C'est parce qu'au moment où le collectif s'est créé, à Paris, c'était la taille maximale autorisée pour l'affichage associatif, l'affichage politique, l'affichage d'opinion, artistique, syndical, culturel, tout ce que vous voulez. Si vous voulez afficher à Paris, si vous voulez faire connaître votre activité, vous devez ne pas dépasser 50 sur 70 cm et vous devez vous mettre sur les panneaux d'affichage libre. Qui connaît, qui sait où sont les panneaux d'affichage libre à Paris? Vous en avez généralement un autour de la mairie et puis peut-être un ou deux autres dans l'arrondissement. Paris ne respecte même pas les obligations légales quant à la surface d'affichage libre qui devrait être mise à disposition. C'est cet écart phénoménal entre l'expression, tout type d'expression, l'expression libre et l'expression commerciale, qui est absolument scandaleuse. Tout a été fait pour ne laisser la place qu'à ce type d'expression. On en arrive aujourd'hui à avoir, bien sûr, communication pour les théâtres, les concerts, même des associations, sur des panneaux en 4x3. Parce que il n'y a plus que ce moyen-là de communiquer dans l'espace public, c'est de passer par les réseaux de communication payants, de passer par les 4x3, etc. Pour qu'on en arrive à cela, pour qu'on en arrive à brider, à restreindre de manière draconienne l'expression politique et à n'imposer qu'un discours unique de consommer pour être heureux, c'est que la société est quand même bien malade. Pour avoir toléré ça, laissé ça, et surtout ne pas vouloir le remettre en cause. Je crois que je vais m'arrêter là. Les questions, ce que vous voulez.
Vous parlez des 7 000 personnes qui ont répondu à la consultation. Est-ce qu'il en a été?
Oui, la consultation publique. Donc le projet de décret là, qui va sortir, qui va généraliser les écrans numériques. Donc les écrans numériques, alors a priori, alors je vous le dis tout de suite, ce sera 8 mètres carrés dans la rue et 50 mètres carrés autour des aéroports. Attention, vous allez avoir des télévisions de 50 mètres carrés.
Ça fait à peu près ce mur là. Voilà, c'est ce mur.
On verra la semaine prochaine les chiffres exacts, mais c'est pour l'instant ce qui est en discussion. Donc des télévisions de 50 mètres carrés plantées au bord des routes. Oui, et 8 mètres carrés pour les nationales et tout ça. Vous aurez des télévisions de 8 mètres carrés au bord des nationales. Et en ville. Ce projet de décret est soumis à consultation publique, comme tous les projets de décret. C'est publié sur un site web, il y a deux adresses mail, il y a trois Pékins qui répondent. En fin février. Donc pour 15 jours de consultation. On arrive sur ce projet de décret à quand même alerter un peu la presse, leur dire attention, là c'est mauvais, c'est pas bon du tout. À faire passer le message dans les réseaux militants, etc. Et au final, il y a 6, je crois que c'est 6 000, j'ai plus chiffré, il y a à peu près 6 000 personnes qui vont écrire au ministère de l'Environnement pour dire ce qu'ils pensent de ce décret. Sachant qu'en plus, il y a eu des mails perdus, parce que les boîtes mails ont été saturées au ministère, il y a plein de mails qui sont perdus dans la nature, etc. En théorie, cette consultation publique, il était précisé que éventuellement on en tiendrait compte. On ne s'attendait pas, bien sûr, à ce que ça révolutionne le texte. Mais devant les résultats qui sont de l'ordre de 80 à 90% des personnes vont dans le sens des associations et 10% des personnes vont dans le sens des afficheurs. Donc, ce sont les employés des compagnies d'affichage qui ont répondu à cette enquête. Et ben finalement, ils ont décidé de ne pas publier les résultats de l'enquête. Donc, on les a eus de manière détournée, mais je pense qu'ils ne les publieront pas. Je suis toujours curieux de savoir le jour où ils vont sortir le décret, comment est-ce qu'ils vont communiquer dessus? Est-ce qu'ils vont faire ça encore entre Noël et Nouvel An? Ou est-ce qu'ils vont assumer publiquement d'oser dire que ce décret va protéger les paysages et que ça va dans le sens de ce que souhaite tout le monde? Mais très clairement, la situation est relativement simple, hein, c'est que c'est Decaux qui décide, c'est un ami du président, et à partir de là, tout le reste est bloqué. Tout le monde nous le dit, de toute façon c'est fini, c'est plus possible, ça vient d'en haut, et ce sera comme ça, point. Donc à part continuer à s'indigner, au moins faire en sorte que ces choses-là ne se passent pas dans l'ombre, et que tout le monde soit bien informé de la manière dont ça a été fait, il reste malheureusement plus grand chose à faire à ce niveau-là pour faire en sorte que les choses changent dans les mois qui viennent. Parle fort.
On n'entend pas.
Voilà, Jocelyn, vous parliez de Decaux justement. Alors, pour la petite histoire, vous savez aussi bien que moi, il y avait un marché qui avait été lancé par la ville de Paris, où justement il y avait un concurrent normalement à Decaux. En termes juridiques, normalement, Decaux n'a pas le droit d'avoir, vous savez aussi bien que moi, il n'aurait pas le droit d'avoir la mainmise ou l'exclusivité sur les panneaux d'affichage. Donc il y avait Chanel. Je ne sais pas si vous... voilà, exactement. Et justement, alors, est-ce que, sur le point de vue juridique, hein, pour empêcher justement Decaux d'avoir la mainmise sur les panneaux d'affichage, sur les espaces publicitaires, sur la communication, est-ce que, en termes juridiques, il ne serait pas, peut-être, c'est une idée, hein, peut-être que j'ai une bêtise, mais judicieux de justement remettre ça sur la table, dire que... Voilà, Decaux, vous avez l'exclusivité sur l'information, sur la publicité. Or, en termes juridiques, vous avez la mainmise, c'est pas légal. Est-ce qu'il ne serait pas possible, justement, de soumettre Decaux à la libre concurrence, c'est-à-dire de dire que non, vous n'avez pas l'exclusivité sur les panneaux d'affichage, faites rentrer un autre concurrent.
Un premier point, c'est on n'est pas là pour se battre, nous, contre Decaux, on se bat contre l'affichage. Au sens où, que ce soit... Alors, ce qui se passe, c'est que c'est Decaux qui fait la loi en France, mais on n'est pas là pour affaiblir Decaux pour que ce soit Claire Chanel qui prenne la place. Pour nous, tout ça, c'est les mêmes. On parle souvent de Decaux parce qu'effectivement, comme il est français, il a un pouvoir particulier en France. Et c'est une première chose. C'est pour dire que si c'est pour remplacer du Decaux par du Claire Chanel, on n'en a rien à faire, on n'ira pas se battre sur ce terrain-là. C'est ça que je veux dire. Le deuxième chose, c'est que il n'y a pas un monopole de Decaux à Paris. Decaux a le marché du mobilier urbain, c'est-à-dire les panneaux qui sont plantés sur le trottoir. Quand vous avez un panneau planté sur le trottoir, c'est forcément à Decaux. En revanche, sur les propriétés privées, les panneaux 4x3 ou déroulants qui sont collés sur les immeubles, ça peut être n'importe lequel des afficheurs. Non. Justement, non. Ce que Decaux a gagné contre les Vélib, c'est ceux qui sont plantés sur le trottoir. Tous ceux qui sont plantés sur le trottoir, c'est forcément Decaux, et c'est ça qui a été négocié avec les Vélib. Là où, pour la petite histoire, il va peut-être y avoir du changement sur ce marché Decaux-Vélib, c'est qu'a priori, le marché est illégal. Le concurrent qui est Vélib, il y a eu un concurrent qui a été débouté au tribunal administratif, tout, ils s'en fait la guerre, mais ça les regarde. Non, en revanche, la Cour des comptes met son nez dedans, parce que ce qui a priori est illégal, c'est de faire un seul appel d'offres pour coupler le marché Vélib avec l'affichage publicitaire. C'est ce que nous, on avait dénoncé à l'époque, certains élus l'avaient dénoncé aussi, qui était de dire, mais vous faites d'un côté un marché pour l'affichage publicitaire, ce qui se faisait déjà avant, ce qui se fait dans plein de communes. Hein. C'est-à-dire, voilà, je suis une municipalité, je veux récupérer de l'argent, j'offre de l'espace pour mettre de la pub, qui vient? Qui veut planter des panneaux? Combien vous verser de redevances à la commune pour l'utilisation d'espaces publics. Ça se fait. Et de l'autre côté, faites un deuxième appel d'offres pour je veux des vélos en libre service et voilà, voilà. Sur ce marché Decaux Vélib, on en est au troisième avenant au contrat. Au début, ça a été vendu comme c'est gratuit pour les Parisiens. Enfin, vous payez l'abonnement, vous payez votre ticket Vélib, mais le système est gratuit. C'est-à-dire que la publicité va financer le Vélib. Et puis, ils sont venus avec un premier avenant en disant, bah, finalement, les Parisiens, ils cassent plus de Vélib que ce qui était prévu. Donc, ça nous coûte trop cher. Donc, eh ben, on ne peut plus continuer, on arrête. Ah oui, mais c'est pas possible, vous n'allez pas arrêter le Vélib. Ah, alors bah, peut-être que si la municipalité mettait un peu la main à la poche pour payer un peu des Vélib, contrairement à ce qui était prévu au début, bah, là, on pourrait peut-être continuer. Donc, bon, ok, la municipalité a mis la main à la poche et finalement, la mairie de Paris paye pour les Vélib. Puis, il y a beaucoup de retard. Il y avait des contraintes budgétaires si ils n'assuraient pas un minimum de remplissage de stations, d'état de fonctionnement des vélos, je ne sais plus quels sont les critères. Et Decaux ne respecte pas du tout ces contraintes techniques sur le fait que le système soit capable de fonctionner comme il faut. Et donc, ils avaient plusieurs millions d'euros d'amende potentielle. Et là, c'est pareil. Ils disent, bon, d'accord, on ne respecte pas les termes du contrat, mais en même temps, si on les respectait, ça ne marcherait pas. Ah oui, d'accord, mais c'est quand même vous qui avez accepté les conditions du contrat. Ah bah oui, mais on a accepté parce que si on n'acceptait pas, on n'avait pas le marché. Mais maintenant qu'on l'a, on ne va pas les respecter parce que si on les respecte, économiquement, c'est pas viable. Bon, d'accord, on ne pouvait pas payer l'amende. Comme ça, les Vélib peuvent continuer à tourner. Et c'est comme ça en permanence, en permanence, en permanence. Et donc, ce qu'on expliquait à l'époque, c'était que le fait de séparer les deux marchés, ça permettait